Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, monsieur Fernand Lopez?
Je vais bien, toi-même.
Bah ça,
C'est...
vas-y, qu'est-ce que tu veux dire?
Non, mais tu me prends très tôt le matin, c'est chaud, tu vois. Ah, ma tête le matin, c'est dur.
Aïe, ouais, mais bon, il faut ce qu'il faut. On va commencer tambour battant par cette UFC 290 qui sur le papier ne nous hypait pas et finalement l'adage des cartes qui sont sur le papier les moins folles délivre à fond, ça s'est encore vérifié.
Une carte de folie, une carte de folie. Moi, j'ai kiffé. Des combats très surprenants. La première grosse surprise pour moi, c'était quand même Adesanya. Qu'est-ce que je raconte?
Ouais,
C'était
Dricus du Plessis.
Jacques du Plessis contre Whittaker. Je n'ai pas vu venir.
Bah, personne n'avait vu dire ça, mais surtout, mais après, voilà. La vraie question, Fernand, c'est quelqu'un comme Dricus du Plessis, là, qui arrive à reproduire ça, tu sais, d'être toujours une période dans le dur, ensuite il arrive à perturber ses adversaires. Est-ce que toi, t'as déjà eu un des mecs comme ça? Et aussi, tu te dis, c'est. Est-ce que ça fait pas partie du plan aussi d'avoir un type qui, il y a toujours ce premier round où faut qu'il se mette un petit peu en marche et après il a chopé le timing de son adversaire et c'est bon. Parce que là, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est plus, on n'est plus dans le hasard, la chance, la contre-performance de Whittaker ou autre, tu vois.
Non, il a une méthode. Il a une méthode qui est simple. C'est et on l'a identifié. Je pense que pas mal de personnes. J'ai écouté Adesanya parler de lui et il a identifié comme étant un mec qui trouve toujours le moyen de gagner. Il n'est pas précis, il n'est pas le plus technique, mais trouve toujours le moyen de gagner parce que il a cet accélérateur qui met en route et peu importe. Comment il n'est pas précis, comment il n'est pas technique, et il met l'accélérateur en route et comme il envoie quand même, il a une frappe lourde, il a des mains lourdes, bah ça fait des dégâts. C'est compliqué de gérer ce genre de gars. De mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir eu dans ma team ou d'avoir coaché ce genre de mec où tu ne sais pas. Peut-être un gars qui s'appelle Thibault Larcher. Je sais pas si tu l'as connu, toi. Un Français 77 kilos, très bon combattant, qui avait ces trucs-là qui ne payaient pas de mine et à chaque fois qu'il arrivait à un combat, il choquait tout le monde. À un moment donné, il était classé numéro 2 en 67 kilos en France, Thibault Larcher. Très solide, avec une tête d'ingénieur, mais très compliqué à aller jusqu'au bout du projet avec lui. Bon, rien de comparable, hein. Du Plessis, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau en termes de mental, en termes de même de constitution physique. Je serais curieux de parler. Enfin, je serais curieux de percevoir une analyse de du Plessis physiquement. Comment est-ce que son corps traduit le langage qu'il a physiquement et comment il arrive à transformer ça en performance sportive. On a un mec qui dès le début, il n'ajuste pas. Il sait pas exactement la bonne distance. Il n'a pas le bon truc. Mais il va finir par coucher l'adversaire avec ce qu'il fait, ce qu'il a été touché avec. Par exemple, le jab, au début, le jab de Whittaker a été très performant, touché clair, et puis au final, dans une garde bizarre, il va placer le bras avant, et c'est le bras avant qui va secouer Whittaker, et ensuite, il ne lâche plus, il est sur lui, il ne lâche pas. Je pense que physiquement, il est monstrueux physiquement, et que... C'est ce genre de mec que quand tu n'as pas testé encore, tu penses que tu sais qui il est. Et voilà, c'est ce genre de mec qui inquiète quand même, sérieusement.
Et tu penses là sérieusement qu'il peut battre Israel Adesanya ou on est encore à un niveau différent?
Il peut le battre. Attention, le niveau n'est pas. Le niveau n'est pas le même. Adesanya a un niveau très très élevé, techniquement c'est autre chose. Il a vécu des grosses guerres, il a un mental à toute épreuve. Il donne l'impression qu'il est submergé par les émotions, mais c'est du jouer, c'est du surjouer même. Il contrôle bien ce qu'il fait. Dès que le combat commence, Adesanya est très concentré. Il sait vers où il va, il sait ce qu'il veut faire. Donc la solution n'est pas très loin de ce qu'avait trouvé une fois Pereira, qui était de transformer le combat en quelque chose de bagarre où il y a Adesanya qui rase les murs, qui est en train de d'être noyé, submergé et qui essaie de faire ses déplacements latéraux et sur un malentendu, même si ce n'est plus un malentendu quand on parle de Duplessis, parce qu'on sait qu'il reproduit la même chose encore et encore, il va finir par le toucher à un moment donné quand l'autre est en train de s'enfuir avec un large crochet pour le déstabiliser, ensuite le fixer et terminer le combat. C'est une possibilité dans un monde parallèle.
Dans un monde parallèle, voilà. Et tout le truc du trash talking, toi, tu en penses quoi là? Parce que c'est vrai que c'est la grosse question du moment. Est-ce que toi, tu trouves que là, on atteint des, on commence à se rapprocher lentement mais sûrement des pires heures de McGregor Khabib, ou tu dis ça fait partie de la promo et il faut laisser faire?
De toute façon, même si on ne laisse pas faire, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas stopper Adesanya de parler, tu vas l'arrêter. Tu vas demander à l'UFC de se stopper. Personne ne peut stopper Adesanya s'il a envie de parler. Il
Non, pas
parle, il
lui. Non,
parle,
mais
il
dans le
discute.
sens que l'UFC, enfin, tu sais, après, je sais pas comment ça se passe. Imagine, toi, Arès, tu vois, tu te dis, oula, là, on commence à atteindre, hein, je sais pas, il y a une rivalité entre deux mecs, tu vois, tu peux dire, bon, les gars, on se concentre sur le sportif et on va pas aller sur ce terrain-là, quoi.
Tu peux pas dire ça à des gens. Ils vont décider eux-mêmes. En gros, Duplessis a l'air de vouloir rester sur le sportif et sur la fanbase sportive. Adesanya, lui, il a intérêt, lui, il a envie de ramener les gens à l'histoire de Duplessis et à son histoire, à lui, à son ADN, à sa vie. Les deux postures s'entendent. Ça ne me choque pas plus que ça. Comment dire? Au début, quand ce truc se déclenche dans l'octogone, je suis un peu gêné. Parce que c'est brutal, on ne s'y attend pas. Et on le voit qui balance le mot qui est dur 10 fois. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, il veut arriver à quoi? Mais finalement, je comprends ce qu'il veut faire. Ce qui veut dire, OK, tu veux qu'on se mette sur la même ligne? Bah, allons-y, je vais te traiter comme tel et on va voir comment tu réagis. Ou en tout cas, on va voir comment le public réagit. Parce que, en fonction de l'endroit où ça sonne, ça aura une consonance. Celui qui a regardé le Clash Talk dans la carte, le face-à-face, qui est un Asiatique, Vietnam, Cambodge, Corée, ça ne lui parle pas, il ne comprend pas ce qu'on raconte là. Enfin, c'est quoi le problème? Bon, moi, je te dis, je suis du continent africain et je suis né là-bas. Et toi, tu viens, tu m'appelles N. Bon, qu'est-ce que tu veux dire en gros? Bon, il comprend pas. Celui qui vient déjà des États-Unis commence un peu à cerner un peu les trucs parce qu'il s'est dit, bon, quand même, je sais un peu de quoi, qu'il y a eu quand même un petit bout d'histoire avec les histoires de race, avec l'esclavage, machin. Celui qui vient de l'Afrique capte plus rapidement parce qu'il est dans le contexte. Et c'est ces personnes-là que Adesanya va chercher. Ces personnes-là qui sont en plein amour ils sont encore en train de se rappeler de Soweto, de l'apartheid, de l'Afrique du Sud. Ces détails-là, c'est ça qu'il va aller chercher. Bon, c'est triste parce qu'en réalité, ce sont les sombres histoires. Ce sont les sombres moments de l'histoire, mais c'est une histoire à pas effacer, à pas oublier, sur lequel il veut revenir en tout cas. Et je dis, les dés sont jetés. Que Duplessis se défend de sa manière et il gère bien. Moi, je trouve qu'il gère bien, qu'il se débrouille pas mal. De lui dire, hey, attends. Revenons un peu sur la Nouvelle-Zélande. C'est pas toi qui réclame d'être néo-zélandais. C'est pas toi qui réclame de combattre au stade en Nouvelle-Zélande. Là, tu veux changer d'avis. Tu es à fond africain. Donc, chacun doit défendre son truc. Et à partir du moment où il faut juste tenir compte de ça, c'est que nous n'avons pas la même perception en fonction de nos éducations, en fonction de nos origines, en fonction du poids culturel qu'on a. Et il faut laisser l'autre exprimer ce qu'il veut. Il y a Adesanya qui veut exprimer un truc en disant, oui, sur le papier, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu viens d'ailleurs. Ah, du coup, c'est un peu raciste quand même. Mine de rien. Mais il dit quelque chose. Et de l'autre côté, il y a Duplessis qui essaie de dire, bon, c'est dommage parce que on ne devrait ne plus parler de la couleur. On devrait parler de la situation où je vis, la situation où je grandis. Tu es reconnu et validé comme néo-zélandais parce que tu y vis. Et on sait que tes origines, effectivement, c'est le Nigeria, mais tu y vis quand même. Et lui, il dit non, 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 moi, c'est pas pareil. Va demander à tes grands-parents d'où ils viennent. Ça ne me choque pas plus que ça. C'est ça, bon, les gens vont pas apprendre l'histoire. Ceux qui s'intéressent vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils vont aller fouiller et ça rappelle un peu l'histoire et c'est bien.
Alright. Et il y avait en co-main event Pantoja contre Monsieur Brandon Moreno, troisième fois qu'ils s'affrontaient, troisième fois que Pantoja s'impose après un title fight, un des plus beaux, j'ai presque envie de dire all time. Qu'est-ce que t'en as pensé? Catégorie flyweight qui vraiment est hyper ouverte, en tout cas il y a beaucoup 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 de gars qui se valent. Ton analyse du choc, et puis surtout, est-ce que toi tu penses qu'il y a pas mal de gens, moi, qui m'ont interpellé là-dessus, je pense que toi aussi, sur ce fameux adage, tu sais, tu peux pas être champion tant que t'as pas vraiment battu le champion, tu vois.
Dur, hein, à décider au final. Pas facile d'être certain, de dire tel a gagné. Moi, c'était pas un vol. Ce qu'il y a eu n'était pas un vol. C'était un beau combat. Très, très beau combat. Vraiment l'un des plus beaux combats qu'on ait eu à l'UFC. Très beau combat dans tous les domaines. C'est à chaque fois qu'il y avait Moreno qui dominait ou qui voulait dominer en boxe et tout, Pantoja arrivait avec un blast de leg, comme on dit. C'est qu'un gros double leg et tout. Et puis derrière ça partait en scramble et tout. À chaque fois qu'ils arrivaient au sol, même quand il y avait une prise de dos et qu'il y avait une mise en danger, il y avait quand même Moreno qui savait de quoi il s'agit, très très technique et tout. Il s'est débrouillé pour que son dos ne soit pas dans l'axe de la colonne vertébrale de Pentora, et donc il s'est décalé sur le côté de façon à ce que l'étranglement aérien ne peut pas commencer, ne puisse pas être appliqué, soit à gauche, soit à droite. J'ai très divertissant comme combat, très beau combat, très bon niveau. On savait que selon les deux combats précédents, on savait que Pentora aurait eu un dessus physique et un dessus grappling. On savait également que Moreno, debout, il envoie du volume et de la constance. Et donc, du coup, ça s'est vu. Moi, j'étais très diverti. C'était vraiment divertissant, le combat. Malheureusement, je pense que c'est pas la dernière fois qu'ils s'affrontent.
Je pense aussi, est-ce qu'après, donc deux fois on va dire en combat professionnel, une fois en amateur lors de The Ultimate Fighter, est-ce que tu penses que t'as perdu trois fois contre un, on en avait parlé pour Adesanya contre Pereira, il peut inverser la tendance,
C'est ce
Moreno?
que j'allais te dire, parce qu'on a déjà eu ça avec Adesanya Pereira, où d'ailleurs on s'est trompé parce qu'on était persuadé que ça va être difficile de remonter trois KO différents et raconter une histoire différente. Et finalement, Adesanya a trouvé la force mentale de le faire. Moreno n'est pas loin, il a fait une très belle performance. Je pense qu'il aurait un peu plus accéléré sur les. Le volume et la pression au niveau de la boxe, peut-être qu'il aurait fait une différence difficile à dire qui va gagner, mais c'est un match qu'on reprendra avec. Et pourtant, d'habitude, quand il y a déjà des rematchs, déjà, moi, je suis moins chaud. Quand il y a une trilogie, je suis encore moins chaud. Mais là, je suis chaud. C'était très divertissant comme combat.
Ouais, et extrêmement serré. Dernier point sur cette UFC 290. Alexander Volkanovski qui va redevenir co-numéro 1 au classement pound for pound. Vraiment, vraiment, il m'a impressionné parce que je m'attendais à ce qu'il gagne, mais de cette manière-là, vraiment une classe d'écart.
Alexandre le Grand. Aussi simple que ça. Alexandre le Grand. C'est le patron des featherweight de toute l'histoire du MMA.
Wow,
Non, ne me dis rien, je suis José Aldo. Ne dis rien. Tu veux dire, ne dis, je ne veux rien entendre. Dis ce que tu veux. Effectivement, 70 kilos, c'est compliqué. Parce que il n'a pas été à la hauteur de l'islam et que il n'a pas vu venir. Mais je te dis, 66 kilos, il est le patron incontesté de l'histoire du MMA. On ne peut pas faire mieux. Il est resté super longtemps en pound for pound. Il a dominé sa caté. La manière dont il a battu hier, Rodriguez, c'est full domination. C'est OK. T'es bon, t'as des high kicks, tu me les mets dans la tête, je m'en moque complètement, tu enchaînes avec des beaux combos, voilà, j'avance sur toi, je te déclenche la guerre, je t'amène au sol, je te tape. Enfin, c'est, non, performance maîtrisée. Moi, j'ai aimé, c'était bien, performance maîtrisée. Et puis, non, il n'est pas co-pan for pan, il est pan for pan. Il est classé numéro 1. Il est monté. Il est numéro 1 de John Johnson, numéro 2.
Ok, parce que j'avais vu, c'était je crois John Morgan qui avait fait un post dessus pour expliquer qu'ils étaient tous les deux à égalité, non? Après,
Non, il n'y a pas.
peut-être que. Ok.
Enfin, oui. En tout cas, sur le classement que j'ai devant moi,
Volkanovski est devant.
tu as raison. C'est marqué 1-1-2. Mais cependant, Volkanovski est devant. Parce que Volkanovski est monté d'un étage et donc ouais, il est classé en premier Volk, ensuite John Jones, Islam, Lance-Édouard, Israël, etc.
Et
En tout cas, ouais,
je te
vas-y.
trouve dur hein, avec Volkanovski parce que 70 c'était quand même chaud contre Maratchev et j'ai tu vois c'est une revanche que j'ai envie de voir moi.
Maratchev, c'est un autre niveau, hein. Comment te dire? Maréchev, je ne suis même pas sûr que Maréchev était à 80%. Je pense que si les deux se repréparent, et Islam se met aussi en mode prépa, il y aura encore un beau combat. Mais c'est dur quand même. C'est que de la même manière où je peux dire sans risque de me tromper qu'en Feder, oui, c'est le boss et que tu peux ramener qui tu veux. Tu peux ramener des tueurs comme Max Holloway. Tu peux me dire ce que tu veux sur Brian Ortega. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais purement, simplement, physiquement, techniquement, stratégiquement, ce que tu veux, il domine et marche sur tous sans équivoque. Ou à 70 kilos, ça devient tendu. Et même ça, c'est un statement. Et même ça de dire que le mec, il est assis à 66 kilos. Et il domine complètement les 66 kilos. Et il va faire le match du siècle contre le mec qui est l'un des meilleurs combattants aussi au monde, qui est Islam Makhachev. Dans une catégorie au-dessus, ça te dit qui est Alexander le Grand.
Ouais, ok, j'entends parfaitement. Fernand, avant le gros sujet de la semaine concernant les actualités, il y a deux points déjà, le retour de Monsieur William Gomis pour l'UFC Paris. Comment ça s'est passé? Comment c'est fait? Est-ce que c'était déjà dans les, on va dire, dans les cartons depuis un moment?
Non, il n'y avait pas de nom dans les cartons, mais il y avait juste la promesse que William Gomis allait être sur Paris. C'était juste une promesse verbale après la performance qui est passée sous les radars. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais William Gomis, ce qu'il a fait contre Francis Maréchal, c'est pas anodin. Hein. C'est pas, c'est quand on organise un combat contre Francis Maréchal qui a fait le teuf, donc non, non, le Contender Series, donc il y a un investissement de l'UFC sur ESPN. Quand on envoie un jeune invaincu comme ça contre William Gomis à Vegas, on compte vraiment en faire enfin, on compte utiliser William Gomis pour que Masha soit très connu de la même manière qu'on est en train de fabriquer et de monter progressivement un jeune combo. Et donc c'est une belle performance. C'était dur, hein, très dur à la fin, mais stratégiquement c'était un combat où il était sous pression. Il a démontré qu'il sait combattre sous pression. Il sait combattre quand il y a un mec qui veut vraiment l'arracher et le poser sur son derrière. Il sait combattre, il sait se défendre, il sait trouver des solutions, il sait frapper, il sait bouger, d'autant plus que son adversaire frappe fort. Et donc, du coup, à la fin du combat, j'attends 2, 3 jours, je renvoie un message au matchmaking pour lui demander, bon, qu'est-ce qu'on fait la suite? Nous, on aimerait être à Paname. Et donc, oui, ça devrait le faire. On devrait avoir la place pour vous sur Paris, pas de souci. Et puis à partir de là, on attend. Et puis là, la nouvelle est tombée et tout, on envoie le nom avant même de regarder ou quoi que ce soit. Il avait déjà dit oui, William. Je lui ai envoyé le nom et je lui dis qu'est-ce que tu penses? Il n'a même pas regardé le nom, c'est Paris, let's go. Et donc voilà, c'est tout.
Et concernant l'adversaire, toi, est-ce que c'est un nom que tu voulais, c'était ce que tu recherchais en termes de step-up?
Non,
Ouais.
honnêtement, non, pas. C'est pas le nom que je voulais, mais ça a un sens pour moi. C'est un bon match où je trouve de l'équilibre. Je trouve sincèrement de l'équilibre. Je pense que c'est un match difficile parce que le mec est difficile à finir, il est un peu compliqué à gérer. Mais je pense que William Gomez est aussi difficile à gérer, difficile à soumettre, difficile à finir. Et je pense qu'on aura encore un de ces matchs où il y a une belle guerre et puis William gagne à la fin.
Alright. Et tout dernier point, Fernand, sur les actualités, on en avait parlé brièvement avant l'enregistrement de l'émission, c'est l'évolution du classement de Sergueï Pavlovitch. Parce que toi, tu connais un petit peu les dessous du MMA et des négociations. Comment ça se fait que Sergueï Pavlovitch, sans combattre depuis, donc est passé devant Cyril Gane en position de contender numéro 1? Et depuis, on a eu l'officialisation de Jon Jones contre Stipe Miocic qui est troisième au classement.
Je pense que ça arrive souvent. Nous, on en a bénéficié à un moment donné qu'on puisse passer devant en termes de classement, monter d'un coup parce qu'il y a une contre-performance de quelqu'un qui est au-dessus. Je pense que la contre-performance de Jon Jones vient d'avoir son contre-coup. Et après quelques temps et tout, tu passes de numéro 1, tu passes à numéro 2. Et puis, je pense aussi que c'est un indicateur de ce qui va se passer. La suite, c'est que je sais pas que je pense, c'est que il m'a été dit que on voulait prévoir comment dire Sergueï Pavlovitch contre l'une des grosses têtes. On a envie de le tester contre l'une des grosses têtes. Maintenant, quand je parle de grosses têtes, je parle de Stipe ou de Jon Jones, qui sont des anciens, qui sont là depuis, qui sont des méritants. Je ne pense pas. Jon Jones dit que ce ne sera pas lui. Il dit qu'il a un combat à faire et puis il s'arrache. Est-ce que Stipe peut encore affronter Pavlovich? Je ne pense pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il est en pole position, Pavlovich, aujourd'hui. Mais quelle que soit la pole position, il y a toujours des priorités. Il y a le feu rouge, le feu vert qui t'explique le passage. Et puis, il y a l'agent. Quand il y a un agent, bah, il prend le dessus sur le feu rouge. Et l'agent, c'est le PPV. L'agent, c'est en gros, il y a des super fights que tu ne peux pas défaire. Hein. De la même manière qu'à l'époque, quand je demandais Jones, ce que le matchmaker répondait, c'est pas de souci, ça a un sens, on va le faire un jour. Mais juste, nous, là, tout de suite, notre priorité, c'est de faire Ngannou versus Jones. Si ça tombe à l'eau, on pensera à vous. Pardon, si tu veux aujourd'hui, la priorité de l'UFC, c'est Stipe Jon Jones. Si ça tombe à l'eau, on verra pour Pavlovich. Et si au moment où Pavlovich combat et que Cyril est propre, c'est-à-dire sur un verre, ou que Thomas Spinal est propre sur un verre, il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec Pavlovich. Voilà comment il faut voir les choses. Voilà, c'est que ça indique simplement que Pavlovich a fait tout ce qu'il faut pour se retrouver en pole position pour la ceinture. Ça veut dire que si jamais il y a quelque chose qui échoue entre Stipe et Jones, celui qui prendra la place, c'est Pavlovich. Ça veut dire que si jamais les deux les anciens prennent la retraite. Celui qui est en pole position, c'est Pablo. Et ensuite, celui qui suivra Pablo, ce sera celui qui est propre, qui est sur un vert à un moment donné.
Ok, et ben voilà, merci pour les explications. Donc le gros sujet de la semaine, Fernand, c'est le sparring, son encadrement, comment ça se passe, parce que je sais très bien quand même MMA Factory, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que j'entends, de temps en temps.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
C'est la guerre mondiale absolue. Donc comment tu fais pour gérer tout ça, pour mettre tes gars en condition? On sait que par exemple, c'est je crois l'UFC Performance Institute, il y a un des octogones où t'as l'impression qu'il y a le public, t'as toute une ambiance qui est similaire à celle des UFC Fight Night tout simplement. Comment est-ce que tu gères tout ça, toi?
Y a pas, on va pas inventer la roue, hein. La réalité, c'est que le sparring, il reste le sparring dans toutes les salles. C'est ce qu'on fait, c'est juste une opposition où on va mettre des thèmes en fonction de la tendance et du niveau du public qui arrive dans la salle. Moi, j'utilise le sparring pour apprendre à gagner le combat. Le sparring n'est pas l'endroit où on va apprendre de la technique, où on va apprendre, en tout cas de manière isolée ou singularisée, de manière en général. On va démarrer avec un thème en fonction de ce qui est le thème du moment. Il y a des cycles. Nous sommes par exemple sur un cycle d'apprentissage de contrôle et de la dirty boxing. En gros, comment se retrouver dans une situation de combat où on est sur un no man's land, où il y a ni boxe ni lutte. Si tu es moyen en boxe et que tu ne boxes pas bien, tu pourrais te débrouiller sur cette distance-là parce que il y a un contrôle de lutteur ou de judoka, comme tu veux, tu peux appeler ça comme kata, mais en tout cas, il y a un bras sous des aisselles ou des mains, il y a un contrôle du poignet et à partir de là, on a un thème qui est lancé. Le but, c'est dans un premier temps de comprendre, d'éduquer aussi les combattants sur ce que veulent les juges et ce qu'observent les juges. Le temps de domination sur un espace, le contrôle de l'espace de combat. Quand je suis dos au mur et que mon partenaire me contrôle chest to chest et que je suis collé dos au mur, le chrono est lancé pour compter le nombre de secondes que je vais rester au mur. Et des fois, ça dure des minutes et les gars ne se rendent pas compte parce que comme il est adossé sur le mur et qu'il se repose, ils continuent à mettre des coups de temps en temps, un coup par là, un coup par-ci, et ils pensent qu'ils sont à l'abri d'une défaite. Mais non, c'est pas le cas. C'est que là, le chrono est lancé un peu comme ceux qui font le judo. Quand vous tombez sur une immobilisation, on vous parle de saikomi, le chrono est lancé. Il y a 30 secondes qui sont parties, on va voir si vous pouvez vous défaire de l'immobilisation ou s'il n'y a pas, si vous ne bougez pas, il va falloir un épon à un moment donné. Bah, il n'y a pas de pont en MMA, mais il y a quand même la notion d'urgence à sortir d'un contrôle. Je donne le thème en disant, on va commencer notre échauffement avec les bras dessus, bras dessous, et comme ça nous échauffe, ça nous prépare de manière spécifique à l'activité de la lutte et du grappling pour que cet échauffement soit complémentaire et qu'on puisse aller toucher tous les axes. Ensuite, à partir de là, on va faire des liaisons de contrôle. On va passer du contrôle de bras dessus, bras dessous avec des possibilités de changement de niveau. Je passe du contrôle de bras dessus, bras dessous qui est une lit, ce qu'on appelle escrima, qu'on connaît, que les Brésiliens appellent escrima, on passe les bras sous les aisselles. Mais on va passer de ce contrôle-là à un éventuel contrôle de single leg ou de double leg. Donc, il y a une liaison de contrôle à faire où je passe de la lutte gréco-romaine à la lutte libre et de la lutte libre à la lutte gréco-romaine. Et quand je suis en lutte libre, je peux passer de la single à la double, de la double à la single avec possibilité de prendre le dos. Mais on est toujours debout. On n'est pas encore tombé. Voilà un thème, par exemple, qui va permettre que j'entre dans mon échauffement spécifique, que j'aille avec une progressivité et une complémentarité pour que j'ai un échauffement complet et les effets de la de les bénéfices de l'échauffement qui sont essentiellement comment dire la prévention des blessures. Et à partir de là, petit à petit, on va injecter des éléments dans la situation. On est toujours sur l'idée de contrôler le gars sur le mur. Et donc, on va monter en sparring en se disant, moi, ce que je veux, c'est que vous teniez en compte des juges, du spectateur et de tout le monde et que vous alliez chercher ce qu'il vous faut. Si vous décidez de contrôler un mec sur la cage, vous n'êtes pas spectaculaire. Il va falloir créer le spectacle. Il va falloir rajouter quand même quelque chose. Il va falloir aller chercher un double leg, par exemple, mais qui est un faux double leg parce que je vais remonter un coup de coude au visage. On se rappelle de ce fameux double leg où Cyril Gane remonte un coup de coude sur le visage de Derrick
Derrick
Lewis
Lewis,
à
yes.
Houston. Et ensuite, on revient debout, on va remettre un coup de coude ou bien frapper debout, on enchaîne une autre forme de combat dessus. Celui qui est au demi, lui, il a l'urgence où on lance le chrono pour qu'il sorte du mur. En gros, le code pour, vous avez vu le combat de Nassourdine contre S, où il a été contrôlé longtemps sur la cage. À la sortie de ce combat-là, on a mis un chrono virtuel dans la tête de Nassour, où quand son dos touche le mur, il a 12 secondes pour sortir. C'est dès que son dos touche le mur et qu'il m'entend faire 10, 9, 8, ça veut dire il y a urgence à ce que tu bouges de là. Et bouger de là ne veut pas dire je veux sortir d'un côté et forcer d'un côté. C'est plus donner des incertitudes et de donner des fausses directions pour finalement sortir. Voilà un thème qui va monter progressivement et qui va, mine de rien, échauffer pas mal, préparer pas mal, mais en même temps aller vers ce que j'appelle un entraînement systémique. Je suis à la fois en train d'échauffer les gars de manière spécifique, mais je suis à la fois en train de leur apprendre et les éduquer, ou en tout cas renforcer les connaissances qu'ils ont sur l'arbitrage et les règles du MMA. Si tu tombes et que tu es en dessous, l'autre au-dessus, t'as beau faire ton petit cinéma, de mettre des petits coups sur lui, ça ne marche pas, t'es dominé, t'es dans une situation que tu ne voulais pas être et tu es contrôlé. Il faut qu'il y ait le chrono qui se mette dans ta tête, le compte à rebours qui dit, à partir de maintenant, il y a une urgence, soit à renverser, soit à me relever, soit alors, mais il faut faire quelque chose. Soit je suis extrêmement efficace au sol là, et j'attaque et je monte mes jambes en escalier et je me mets à attaquer toute forme de soumission possible, mais il faut que je montre au juge que je ne suis pas sur une position où je suis contrôlé et je suis incapable de me développer ou me déployer. Et petit à petit, quand les choses sont devenues très sérieuses et qu'on a monté toutes les étapes où je vais passer des systèmes de déséquilibre au système de chute complètement. Donc au début, je ne fais pas tomber puisqu'on n'est pas encore assez chaud, mais petit à petit, je vais introduire des déséquilibres contrôlés et petit à petit, je vais amener des aménos. Je vais faire il y aura des aménos au sol qui sont autorisés avec tout ce qui contourne, tout ce qui passe autour, donc les coups de genou, les coups de coude, c'est toujours de l'éducation. Quand il y a un genou qui est par terre, je vais éviter de mettre mon coup de genou à la tête, je vais le mettre au corps. Je vais prendre toutes les opportunités. C'est le moment de les éduquer. C'est vraiment le cours pour gagner le combat. Mais gagner le combat, y compris par les vices de procédure, c'est que au bout d'un moment, il faut gagner le combat. Et ensuite, il y a des cours qui ne sont pas des sparring, qui sont des cours où on va faire cet échauffement généralisé, ensuite spécifique, ensuite l'apprentissage de la technique et tout ce que tu veux. Mais sur les sparring qu'on fait au MMA Factory, en tout cas, on a pour objectif de s'habituer à faire des combats et de s'habituer à gagner les combats. Et donc, au final, on va sortir du thème qui était isolé, qui était ce thème-là de dire on va faire le combat contre la cage et la dirty boxing, où si je suis pas un bon lutteur, même si je suis un Nakmoué, je viens du Muay Thai, je pourrais aller pousser quelqu'un sur la cage, le contrôler sur la cage et le gérer alors que je ne suis pas naturellement un lutteur. Pareil pour le boxeur. Si je ne suis pas naturellement un boxeur, je pourrais aller coller Tyson et puis rester au contact avec lui et gérer et mettre des petits coups parce que c'est ce qu'on appelle la dirty boxing et tout le monde est capable de le faire. Enfin, tout le monde devrait On n'a pas besoin de skills, de 10 ans de skills pour comprendre comment aller faire la dirty boxing. On a besoin juste de s'habituer à le faire parce que c'est un type de filière de gestion d'énergie différent que le reste du combat. Quand on a fait ça, quand on est chaud, on va repartir sur un thème central où on va mettre en exergue tout le MMA. Donc, on lance un thème de combat, mais on garde en tête la prédominance de l'exploitation des opportunités contre la cage. On va faire un sparring normal, mais quand il y aura l'opportunité, j'attends de mes élèves qu'ils appliquent ce qu'on vient de voir et qu'ils utilisent ce qu'on vient de voir. Et à partir de là, la guerre est partie. Là, je parle d'un coup collectif. Et ensuite, effectivement, il y a des sparring qui sont des sparring à cours individuels. Quand on a une date de combat, William Gomis, boum, c'est annoncé, il a une date de combat. On se met à passer des coups de fil. On appelle Victor Yoka, le petit frère de Tony Yoka, qui va venir nous aider à faire le sparring en boxe anglaise. On va appeler deux jeunes caucasiens qu'on a à la salle, qui sont très bons dans leur domaine. Mustapha F, qu'on a vu combattre sur Arès. Et puis, j'oublie le nom du second, qu'on va amener en sparring sur la même séance où ils vont lutter contre William Gomis. L'idée, c'est de gérer la lutte, de gérer le pied-point de haut niveau avec des sparring comme ça. Et là, c'est individuel. Là, on fait une cellule. On partage les vidéos de l'adversaire avec les sparring. On va chercher à faire du profiling, de faire à ce que les sparring en question jouent le rôle et imitent complètement l'adversaire. Et puis, on sépare ça complètement. Là, on n'est pas dans. On sépare ça complètement du développement technique et stratégique le lendemain ou le jour d'après ou le jour d'avant. En gros, ce que j'aurais fait en sparring qui n'était pas bien, ça va être noté. Ça va être retravaillé le lendemain techniquement, stratégiquement, sur les pattes d'ours. Et ce qui a été fait de bien va être noté, retravaillé de façon à le perfectionner, que ça devienne la marque de fabrique ou en tout cas l'une des signatures qu'il va utiliser. Voilà un peu comment se constitue les sparring, mais rien de spécial, quoi.
Mais et comment tu gères le côté, on va dire, émotionnel qu'il peut y avoir dans les sparring?
Ça dépend de chaque. Ça dépend. C'est complètement singularisé. Les émotions en sparring. Comment dire? Sur un coup collectif, c'est facile à gérer. C'est la sélection naturelle qui va aider les gens à suivre ou pas. En gros, le coach est le garant de la sécurité. Mon rôle quand je donne un sparring est d'anticiper sur les situations anxiogènes, les situations conflictuelles, les situations accidentelles. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a deux personnes qui sont en train de tourner et qui sont en train de faire un sparring, il faut être capable de lire que on a une personne, et je pense qu'il y a des habitants de ton île qui te reconnaissent, en fait, et ils te reconnaissent et ils disent, c'est pas le monsieur de la chair là et tout, mais ils se rendent pas compte qu'ils passent derrière la caméra et ils passent en disant, ah, je pense que je le connais, tiens, je vais aller lui demander une photo. Donc ne sois pas surpris si on est interrompu tout à l'heure pour une séance photo, mais je pense que ça va pas tarder. De plus en plus, il se rapproche, tu vois. Et donc, le rôle d'un coach, mon rôle, c'est, en tout cas, moi, quand je donne cours, mon rôle, c'est ça, c'est de dire, il y a deux gars qui sont en train de s'entraîner. L'un est gaucher, l'autre est droitier. Donc, garde inversé. Il se rapproche dangereusement. Je dois anticiper et dire, les gars, attention à vos têtes. Vous devrez porter des casques, ou si vous n'avez pas de casque, tenez en compte. Vous pouvez vous blesser à l'arcade parce que c'est une situation accidentogène. On le sait, quand il y a des gardes inversés qui se croisent, souvent, ça arrive. Sur le même entraînement, J'ai des personnes qui sont en train de s'entraîner et je sens qu'il y a une certaine tension qui monte parce qu'il y a l'un qui frappe un peu plus fort, l'autre frappe pas, l'autre trouve que c'est trop fort, même si, et puis le premier, le boxeur A, dit, mais non, c'est toi qui as commencé à frapper fort. Il faut pouvoir le lire rapidement avant qu'il y ait des mots qui s'échangent et que je puisse anticiper sur cette situation conflictuelle. Que j'intervienne et que je stoppe le cours et que je change de partenaire. Je vais juste dire, on change de partenaire. Ils vont changer de partenaire, mais même eux ne se rendent pas compte que je viens d'éviter un conflit, que je viens d'éviter une guerre. Ils vont redescendre, ils vont tourner avec d'autres personnes et éventuellement ils vont se recroiser, mais la dynamique ne sera plus la même parce qu'on sera sur un autre thème de travail où l'autre a oublié qu'il a été frappé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis il y a, j'essaie de donner des exemples. Hein, si je vous ai parlé de cette situation. Les situations accidentogènes qui peuvent apporter des blessures, des attitudes, la manière, sur les projections, il faut qu'on puisse anticiper. Je regarde des jeunes tourner, je vois qu'il y a certaines projections et je vois qu'il y a un jeune qui vient faire des prises de judo, par exemple. Il va faire osotogari, c'est une espèce de barrage de jambe sur jambe. Donc, ma jambe est censée aller derrière le creux de popliteux de l'adversaire pour le faire tomber. Quand cette jambe est derrière son creux de popliteux, on est sur l'axe de la flexion naturelle du genou. Et donc, il n'y a pas de risque, ou en tout cas de contraintes biomécaniques fortes sur le genou. Mais je vois un autre jeune d'un autre côté qui veut faire la même technique. Il ne sait pas le faire, il va placer sa jambe en barrière sur le côté latéral et le côté du ligament extérieur du genou. Je dois être capable rapidement d'intervenir, de stopper ces jeunes-là pour qu'on évite le drame. Parce que il va forcer, s'ils sont lourds en plus, ça va forcer et résister longtemps de l'autre côté, surtout s'il n'y a pas d'expérience. Au lieu de se laisser tomber, l'autre va résister. Il y aura rupture des ligaments à un moment donné. Ça, c'est un peu le rôle de coach, d'aller réguler ça. Il est l'arbitre qui va réguler tout l'entraînement et avoir l'œil partout pour coacher. Et ensuite, il va figer des scènes. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est un apprentissage. Quand je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose, une situation intéressante pour moi et que l'un des athlètes n'a pas compris ce qui se passe, je vais stopper comme un arbitre fait, poser mes deux mains sur lui ou juste dire, les appeler par le prénom et dire ne bougez pas, ne bougez surtout pas, ne défaites pas la prise. Et là, je fixe la situation et je vais analyser avec eux et tout le monde pour que tout le monde en profite en disant, bon, tu vas sur cette situation. Tu l'as déjà fait deux fois et tu as perdu la main deux fois parce que tu n'as pas compris que la suite du mouvement ici, c'est que tu aies ton bras sous l'aisselle. Si tu ne l'as pas sous l'aisselle, voilà comment il se débrouille à se retrouver dans ton dos. J'explique. Ensuite, il comprend et ensuite je relaisse l'entraînement. Je repartir, redémarrer et enfin, continuer en fait son cours. Le grand rôle du coach, c'est ça, c'est réguler l'entraînement sur tous ces aspects dont je viens de parler. Et puis, il y a, c'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire d'émotion surtout. Il y a des émotions qu'on a en fonction des gens. Je prends le cas d'un athlète
On sent qu'on marche sur des œufs sur ce sujet-là pour faire du name dropping.
Oui, c'est chaud. Tu prends un athlète qui est deux Caucasiens qui vont tourner. Et tu as besoin d'un sparring intense, important, parce qu'on a une certaine temporalité de l'entraînement du combat. Les Caucasiens sont très familles. En général, quand ils viennent regarder le sparring, il y a les frères, les sœurs, le père, enfin, les frères et les pères, en tout cas, ils sont là. Et d'expérience, tu sais que les pères sont très respectés. C'est très hiérarchisé. C'est vraiment Dieu, les pères, et puis les mères. Et il y a une vraie hiérarchie des choses dans l'organisation. Cette hiérarchie-là fait que tu sais que l'un des Caucasiens, s'il y a un des gars des deux sparring qui est dominant, il ne pourra pas dominer sous influence des parents qui sont à l'extérieur. À toi de voir ce que tu veux. Si tu fais un sparring qui est un sparring technique où il y a de la stratégie, de l'intelligence, tu laisses le combat se dérouler. Si tu veux un sparring disputé, équilibré, tu vas devoir demander gentiment la veille aux parents de ne pas venir. Et là, tu auras tout un autre état d'esprit. Parce que par respect, on ne domine pas outrageusement un partenaire, on n'apporte pas l'intensité dure sur un partenaire quand il y a son parent à côté. Parce que c'est une insulte, c'est un manque de, c'est chaud. Et puis, il y a des personnes qui, naturellement, juste ne peuvent pas le faire. Je peux dropper le nom dessus, c'est pas, il le sait, c'est. Je ne peux pas obtenir un sparring de Cyril, par exemple, où il est à où se rapproche même de 70% si je ne vide pas la salle. Si je veux un sparring dur de Cyril avec un partenaire qui est un partenaire à lui, bon, si je vais à l'INSEP avec Cyril et que je vais boxer avec des gars de l'anglaise, il n'y a pas de problème, il peut avoir tous les spectateurs, il va se défoncer, il va s'arracher.
Pourquoi dans ce cadre-là spécifiquement?
Wow. Alors, pourquoi? Parce que si tu amènes Cyril à s'entraîner au MMA Factory avec un de ses partenaires, s'il y a des spectateurs, il est trop dans l'empathie. Il va vouloir être sûr que il ne paraît pas dominant. C'est très stupide, hein. C'est compliqué. Il va se mettre dans des situations de danger pour ne pas faire perdre la face à son partenaire. Si ces deux-là se retrouvent tout seuls et qu'il n'y a personne, il n'y a que moi qui regarde, il va le mettre bien. Ou en tout cas, il va s'amuser avec lui parce que il y a une notion de domination. S'il sent qu'il y a des gens qui regardent, c'est un peu une forme d'humilité dans le défi sportif. Et donc, du coup, si tu veux vraiment le développer, tu es obligé de faire les choses différemment. Et puis, il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Il y a des personnes qui ont une tendance très forte. Si tu veux obtenir d'eux un sparring intelligent, parce que eux, ils n'ont pas besoin de gérer les émotions, ils sont ultra actifs, très, très excités quand il y a un sparring. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il me veut, mon téléphone? Donc, si on a quelqu'un qui est très excité, en gros, il y a un curseur à avoir, quelqu'un de très. Pas excité, c'est relou pour le coach parce que du coup il y a une motivation à aller chercher, à le ramener pour lui dire bon, il faut y aller quoi. J'ai compris que c'est ton ami, c'est ton pote, mais il faut y aller. D'un autre côté, tu as un autre qui est très excité, très enclin à vouloir faire le combat, il faut le ramener. Et donc, s'il y a des caméras par exemple, il y a des personnes où je ne vais pas faire un sparring s'il y a caméra. Ou en tout cas, dans le cercle de ces caméras, je vais annoncer, il y aura caméra demain. Comportez-vous comme si elles n'existaient pas, les caméras. Parce que, autrement dit, ça va castagner la mort. Donc, c'est comme ça qu'on gère les émotions, c'est que tu singularises, en tout cas sur le haut niveau, sur le niveau des débutants, des moyens, des non-compétiteurs, tu vas pas le singulariser quand il y a sparring, tu vas juste préserver tous les athlètes pour qu'ils rentrent en santé comme ils sont venus en santé. Et donc, tu vas tout faire pour que tu régules et qu'il n'y ait pas d'appariement déséquilibré. Lors des sparring, tu vas constater. Et la règle de je mets tout le même du même poids ne marche pas toujours. Lors des sparring, il va par exemple arriver que je mette quelqu'un de 67 kilos face à quelqu'un de 100 kilos ou d'un poids lourd parce que j'ai compris qu'il y aurait une compensation entre la technique, la vitesse et tout ce qui va avec. Voilà. Il faut juste que je trouve des matchs équitables, que je les préserve, qu'ils soient en santé. Les sparring des pros, il faut que je tienne compte de la singularité de chacun et que je lui mette ce qui va l'améliorer, ce qui va améliorer son style, où est-ce qu'il va apprendre sans avoir trop d'excitation ou peu d'excitation.
Eh ben voilà, c'est parfait, Fernand. Merci beaucoup pour cette petite. J'aurais bien aimé quelques petites pépites ici et là, mais bon, on gardera ça pour une prochaine fois sur concernant les sparring. Pour la suite là, comment est-ce que ça va se passer? Et ce sera le mot de la fin, je pense, pour cet épisode-là. Cet été au MMA Factory, parce qu'entre la transition des locaux, la préparation de l'UFC Paris, j'imagine qu'il y a pas mal de. Enfin, c'est pas du tout un été assez calme.
Non, en général, on sait qu'on n'aura plus d'été calme, puisque Dana White dit qu'il veut revenir en septembre tous les ans, donc on n'aura plus d'été calme. En tout cas, la dernière fois, on a fait les étés en général. Ceux qui combattent à l'UFC, on va en vacances ensemble et puis on se prépare ensemble. Là, il n'y a pas de vacances. Il y a pas de vacances pour, voilà, les familles, elles ont pris quelques jours avant ou quelques jours après, mais il y aura pas de vacances jusqu'au 3 septembre. On est au charbon. Il y a personne qui bouge, il y a rien. Tous les jours, il y a entraînement. Donc, là, à la fin de cet enregistrement, je sors de là et puis ça va à la salle et ça va faire ça tous, on ne bouge pas de Paris.
Voilà, bah bon courage Fernand, merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Aïe, aïe.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.